I'm Joe Biden.
I'm Donald Trump, and I approve this message.
USA 2020.
USA 2020.
Keep America great.
Europe Soir, le 18-20, édition spéciale élection américaine.
I don't look at this in terms of the way he does.
Europe 1, special edition.
Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver effectivement pour ces deux heures d'infos, d'échanges et de débats. L'Amérique en plein doute ce soir. Qui sera le prochain président des États-Unis? Eh bien ce soir, on ne le sait toujours pas. Donald Trump revendique la victoire, Joe Biden réplique. Alors que le dépouillement des votes n'est toujours pas terminé, il est en train de se passer ce que tout le monde redoutait. Un scrutin sur le fil, suspendu à une poignée d'États. Immense tension dans le pays. Les derniers résultats seront déterminants. On va vivre tout cela en direct ce soir. Édition spéciale effectivement avec nos invités jusqu'à 20h. Le président américain menace de saisir la Cour suprême et promet déjà un recours. On vous dira tout dans le détail sur les enjeux des prochaines heures. Bonsoir Isabelle Millet.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Le journal avec vous pour commencer. Il est 18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Et une élection sans vainqueur, donc, pour l'instant. Trump est persuadé d'avoir gagné. Biden, plus prudent, pense qu'il n'a pas perdu. Le dépouillement se poursuit dans les États clés. On sera en direct des États-Unis dès le début de ce journal.
Oui, notamment dans le fief de Joe Biden, où après un moment de flottement dans la nuit, on a très envie d'y croire. Même si rien n'est gagné pour l'instant, il faudra sans doute encore plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour y voir clair.
On verra en tout cas que ce scénario est tout sauf une surprise. Certains l'avaient prédit dans le détail.
Oui, les grands networks américains, en tout cas, les grandes chaîne de télé s'en donne, vous le verrez à cœur joie.
Et puis en France, quand la droite profite de l'absence de nombreux députés, La République En Marche, pour faire passer un texte qui réduit la durée de l'état d'urgence sanitaire, le ministre de la Santé est furieux.
Et puis le foot avec des affiches, des belles affiches ce soir. Leipzig, PSG, Chelsea, Rennes en Ligue des Champions. Pour Paris, ce sont des retrouvailles. Pour le Stade Rennais, c'est un immense défi face à l'un des plus grands clubs européens.
La Bourse de Paris a terminé ce soir en forte hausse de 2,44% à 4 922 points.
Et puis la tendance météo avec Anissa qui nous a rejoint. Comment ça s'annonce pour demain, ma chère Anissa?
Une très belle journée, Julien. Encore plus belle que celle d'aujourd'hui avec un soleil généreux, un ciel complètement dégagé sur tout le pays, mais des températures encore très fraîches et des gelées blanches encore demain matin. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est donc le pire scénario. L'Amérique a voté, mais elle ne connaît toujours pas le nom de son futur président.
Le décompte des bulletins de vote se poursuit dans un climat évidemment tendu. On rejoint tout de suite Xavier Yvon en direct de New York, correspondant permanent d'Europe 1. Xavier, où en est-on ce soir du décompte? Est-ce que les choses ont un peu avancé?
Alors oui, les choses ont un peu avancé. Oui, le décompte continue. On voit régulièrement sur les télés américaines les images, vous savez, de ces bureaux de vote avec des tables, des chaises et puis des gens qui comptent des bouts de papier. Il faut d'abord poser très clairement les choses. Il reste encore 6 États qui n'ont pas livré leur verdict, donc tout est possible. Dans ces 6 États, il y en a 3 très importants dont on n'arrête pas de parler. C'est ceux du Midwest, le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Pour vous donner une idée de ce qui se passe en ce moment, quand les Américains sont allés se coucher, c'était la stupéfaction. Donald Trump résistait beaucoup mieux que prévu et il menait assez largement dans ces 3 États clés. Mais c'était prévu, c'était le mirage rouge dont on parlait parce que pendant la nuit, l'écart s'est resserré. Et à l'heure où on se parle, il est midi ici sur la côte Est, et bien cet écart s'est même inversé désormais dans le Wisconsin et le Michigan. Joe Biden est devant pour l'instant à quelques dizaines de milliers de voix. C'est parce qu'on est en train d'ajouter les millions de bulletins envoyés par la poste qui sont en grande majorité démocrates, qui viennent notamment des grandes agglomérations. Par exemple, dans le Wisconsin, c'est grâce aux voix de la grande ville de Milwaukee qu'on a vu Joe Biden repasser devant Donald Trump. Alors, c'est d'un cheveu, rien n'est fini. Il y a aussi des grains de sable dans la machine. Pour la petite histoire, il y a eu du retard dans la ville de Green Bay, dans le Wisconsin, parce qu'une machine a manqué d'encre. Pour vous dire à quoi ça tient, et que donc il va falloir être patient. Le gouverneur de Pennsylvanie vient de parler pour dire qu'il espérait avoir terminé demain. Dans le Michigan, la secrétaire d'État se donne jusqu'à vendredi. Il reste aussi la Géorgie, le Nevada, la Caroline du Nord. On espère que tout ça va arriver dans la journée. Et ces votes qu'on continue à dépouiller ne sont pas apparus comme par magie, comme l'a tweeté Donald Trump. Ce sont les voix des Américains. Elles doivent toutes compter, dit le camp Biden. L'état-major démocrate se dit d'ailleurs en ce moment très confiant dans une victoire de l'ancien président. Sa directrice de campagne a même ironisé tout à l'heure en parlant avec des journalistes en disant que si on arrête le décompte maintenant, comme l'exige Donald Trump, eh bien, c'est Joe Biden qui gagne.
Bien, et à l'heure où on se parle, 224 grands électeurs pour Biden, 213 pour Trump. Il faut, Xavier, une majorité de 270 grands électeurs pour gagner.
Oui, c'est ça exactement, c'est le chiffre magique, hein, comme on dit ici. Alors, quand on regarde la carte des États qui n'ont pas encore livré leur verdict, on voit que pour l'instant, Joe Biden a des chemins, comme on dit ici, plus clairs vers la victoire. Donald Trump a des chemins moins évidents. Il peut encore gagner, mais pour l'instant, à l'heure où on se parle et tout est évolutif, celui qui a le plus de chances, disons, le plus de moyens d'arriver à ce chiffre magique de 270, c'est Joe Biden.
Bien, merci Xavier Yvon en direct de New York et vous restez avec nous tout au long de la soirée.
Alors ce scénario, eh bien certains l'avaient vu venir. Ça n'est pas complètement une surprise et ça n'est pas non plus une première.
Oui, le sénateur Bernie Sanders, soutien de Joe Biden, avait anticipé pratiquement tout ce qu'il se passe en ce moment. La galère des votes par correspondance, le scrutin serré, Trump qui revendique la victoire et qui dénonce des fraudes.
Dans des États comme la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, ils vont recevoir d'énormes quantités de bulletins de vote par correspondance. Ils ne seront pas en capacité de comptabiliser tous ces votes avant le jour de l'élection. Ce que montrent les études, c'est que les démocrates votent davantage par correspondance, alors que les républicains se déplacent dans les bureaux de vote le jour de l'élection. Les premiers bulletins comptabilisés seront donc ceux des républicains. Voilà ma peur. Il se pourrait que le soir de l'élection, Trump gagne dans le Michigan, en Pennsylvanie, qu'il aille sur les plateaux télé pour dire « Merci de m'avoir élu, c'est terminé ». Mais les jours suivants, avec tous ces votes par correspondance décomptés, s'il se trouve que Biden remporte ces États, Trump dira « Vous voyez, je vous avais dit que tout était frauduleux ».
Voilà, visionnaire, hein, le sénateur démocrate du Vermont qui avait prédit donc cette issue incertaine. C'était sur le plateau de l'émission Tonight Show de Jimmy Fallon il y a tout pile 10 jours.
En tout cas, autant vous dire que les chaînes de télé américaines sont en boucle depuis hier.
Oui, vous connaissez les chaînes Info, Made in USA, le café coule à flot dans les rédactions et les spécialistes se succèdent pour analyser et commenter ce scrutin. Jean-Sébastien Soldani, une fois de plus, les grands networks mettent le paquet. Hein.
Et cette fois, il ne faut pas se laisser tromper par les bandes annonces et les slogans ronflants. Le peuple vote et le monde entier nous regarde, clame CNN dans des montages très grands spectacles. Mais une fois en plateau, c'est beaucoup plus sobre qu'à l'accoutumée. Il n'y a plus ces effets spéciaux et incrustations. Ce qui tient le spectateur en haleine, ce sont des analyses ultra poussées. Mention spéciale à John King, seul devant un écran tactile. Il n'a pas de notes, ses doigts se promènent pendant plus de 6 heures d'affilée sur la carte des États-Unis et il décrypte les résultats du plus petit comté de Pennsylvanie. Il met tout en perspective comme si la moindre petite ville de l'Arizona pouvait à elle seule faire basculer l'élection. C'est sobre, mais avec un rien, il fait vivre ce suspense aux spectateurs. Et puis, cette attente, mise en scène ou non, c'est aussi le miroir de cette Amérique ultra polarisée et du parti pris très assumé de grands médias. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici, s'étonne le présentateur de Fox News, chaîne pro-Trump, lorsqu'il s'aperçoit que l'Arizona va basculer dans le camp Biden. Quelques secondes de blanc suivent à l'antenne avec cette question. Si tu perds l'Arizona, tu gagnes où maintenant? Il y a de la provoque, il y a de l'analyse, tout le monde y trouve son compte et vient à se passionner pour le résultat du dépouillement du comté de Maricopa au fin fond de l'Arizona.
Merci beaucoup Jean-Sébastien Soleini. On va maintenant partir dans le Delaware, à Wilmington. C'est le fief de campagne, vous le savez maintenant, de Joe Biden, où l'on vous retrouve en direct, Loubna Anaki. Alors Loubna, est-ce que ça y est, on commence à y croire? Comment est l'ambiance sur place?
Alors, on y croit, mais on a peur de trop y croire. Dans les rues de Wilmington, la plupart des habitants à qui j'ai parlé ici et qui soutiennent Joe Biden disent être inquiets parce qu'ils ne pensaient pas que la course serait aussi serrée. Et surtout, ils espéraient que tout serait tellement clair et rapide que le camp républicain ne pourrait rien contester. Donc, même si dans les faits, ils partagent l'enthousiasme de leur candidat et de son équipe, les électeurs ont peur des différents recours devant les tribunaux que Donald Trump va probablement enclencher en cas de défaite. Une jeune habitante de Wilmington me disait ne pas avoir dormi de la nuit et que jamais rien ne lui avait fait autant peur que cette élection, mais elle espère voir un habitant du Delaware devenir président. Petit point historique, le Delaware a été le premier État à ratifier la Constitution et à rejoindre l'Union. Si Joe Biden est élu, il serait le tout premier président originaire du Delaware. Et ça, les habitants y disent attendre depuis très longtemps. Joe Biden, lui, a partagé un message sur Twitter ce matin dans lequel il promet, je cite, de lutter jusqu'au bout pour que chaque vote soit comptabilisé.
Merci beaucoup Loubna Anaki, en direct de Wilmington, donc dans le fief de Joe Biden, dans le Delaware pour Europe 1.
Oui, on continue de parler de cette élection américaine toute la soirée jusqu'à 20h avec nos experts, nos invités et nos envoyés spéciaux, notamment tout à l'heure à partir de 19h dans le Club des idées.
Europe 1, Julien Bugier.
18h08, vous restez avec nous dans quelques secondes, on verra comment l'opposition a profité de l'absence des députés de la majorité pour faire passer un texte qui réduit la durée de l'état d'urgence sanitaire.
Et puis Chelsea-Rennes, le face-à-face ce soir en Ligue des Champions, l'un des meilleurs clubs d'Europe face à un petit nouveau.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite de votre journal, Isabelle Millet. Et il n'y a pas qu'aux États-Unis que la soirée a été longue. À l'Assemblée nationale aussi, Isabelle.
Oui, à la surprise générale, l'opposition est parvenue à faire voter une prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 14 décembre seulement et non jusqu'au 16 février, comme le souhaitait le gouvernement.
C'est un camouflet qui a mis très en colère Olivier Véran. Il est sorti de ses gonds, d'autant plus Adrien Beck, que la majorité s'est en fait retrouvée piégée par la droite.
Oui, 21h45, on bat le rappel sur les boucles de messagerie de députés LAREM. On est en minorité dans l'hémicycle. Trop tard, le vote est lancé. La droite a très bien compris ce qu'elle faisait. Une majorité nerveuse, un peu lasse et pas forcément très mobilisée. On se demande ce que certains avaient à faire un mardi soir de confinement, s'agace un cadre de la majorité. Quelques dizaines de minutes plus tard, à peine revenu d'un déplacement à l'hôpital de Corbeil-Essonnes, le ministre de la Santé fait irruption dans l'hémicycle.
Je suis rentré dans deux chambres dans ce service de réanimation de Corbeil-Essonnes. Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans. Dans la deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici.
Olivier Véran qui perd son calme. L'expression « sortez d'ici » venant d'un ministre n'est pas passée auprès des députés, y compris de la majorité. Dès ce soir, le gouvernement va demander une nouvelle délibération. L'amendement sera donc assez logiquement rejeté. Fin du psychodrame et des esprits qui se sont tout de même un peu apaisés cet après-midi, puisque toutes les forces politiques en séance ont appelé à travailler en bonne intelligence.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Un nouveau conseil de défense consacré à la crise sanitaire, encore un, s'est tenu aujourd'hui alors que l'épidémie continue de gagner du terrain. 430 nouveaux décès lors des dernières 24 heures, près de 3900 malades en réanimation.
Oui, la question d'un couvre-feu en région parisienne, en plus du confinement qui a fait l'objet, on le sait, d'un couac hier, eh bien cette question est bel et bien sur la table.
Emmanuel Macron se rendra lundi à Vienne en Autriche, on l'a appris ce soir.
Oui, la capitale autrichienne visée par un attentat revendiqué par l'État islamique qui a fait 4 morts. Le président français évoquera avec le chancelier autrichien la lutte contre le terrorisme, la protection des frontières extérieures de l'Europe ainsi que la Turquie.
Les sports avec le foot, avec et après la déconfiture de Marseille à Porto, suite ce soir de la Ligue des Champions.
Avec le PSG qui se déplace à Leipzig, sans Kylian Mbappé, blessé à la cuisse, sans Neymar, sans Icardi, sans Verratti, retrouvailles 4 mois après la demi-finale remportée par Paris face aux Allemands.
Tandis que Rennes affronte de son côté Chelsea, l'ogre londonien pour les Bretons qui, on le rappelle, découvrent la Ligue des Champions cette année, ça n'est pas rien.
Et c'est vrai Cyril de la Morinerie, qu'entre Chelsea et Rennes, il y a un fossé, ils ne jouent pas tout à fait dans la même cour.
Exactement, immense défi pour Rennes qui va affronter l'un des clubs les plus riches du monde, tout simplement celui du milliardaire russe Roman Abramovich, avec son effectif XXL évalué à plus de 850 millions d'euros. Ses 21 internationaux, ses champions du monde, N'Golo Kanté et Giroud, même si l'attaquant français joue peu, son expérience, une Ligue des Champions, deux Ligues Europa contre 3 Coupes de France pour Rennes. Mais surtout, Chelsea était le club le plus dépensier cet été en Europe. Malgré la crise du coronavirus, les Blues ont sorti le carnet de chèques avec 250 millions d'euros d'investissement. Ils ont notamment recruté le gardien de Rennes, Edouard Mendy, qui fait sensation outre-Manche. Ou encore l'ancien parisien Thiago Silva qui s'est parfaitement adapté. Mais les Bretons se sont aussi renforcés. Leur jeune entraîneur Julien Stéphan est reconnu. Et si Kamavinga est blessé, bien le champion du monde Steven Zonzi, suspendu à Séville, sera de la partie. Ce soir, le mythique Stamford Bridge sera vide. Un crève-cœur pour tous les fans des Rouges et Noirs qui avaient investi les rues de Londres il y a 2 ans lors d'un match de Ligue Europa perdu à Arsenal.
Vive la Bretagne!
Oui,
vive
et les Bretagne.
Chelsea Rennes, Leipzig PSG, deux rencontres à suivre en tout cas en direct sur Europe 1 ce soir. Grande soirée foot dès 20h et puis notez qu'à 19h on sera au Masters 1000 de tennis, bien sûr, de Paris-Bercy. Richard Gasquet éliminé, tout comme Benjamin Bonzi, Pierre Hugerbert, Adrian Manarino, lui s'est qualifié.
Merci Isabelle, à tout à l'heure pour le rappel des titres et à 19h pour le journal de l'info. 18h14, la météo avec Anissa qui nous a rejoint. Du soleil au programme et quelques degrés en plus demain. Oui. Ça remonte.
Ouais, ça fait du bien, il n'y a que du positif effectivement côté météo pour demain. C'est une vraie journée d'automne avec sur une grande partie du pays en début de journée de nombreux brouillards et des nuages bas sur la vallée du Rhône et dans les Hauts-de-France. Ces brouillards resteront tenaces, donc là la visibilité pourra être réduite à certains moments de la journée. Les nuages vont se dissiper partout ailleurs. Et dans l'après-midi, le soleil s'impose dans un ciel complètement dégagé. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une carte avec autant de soleil et très peu de nuages. Il n'y a finalement que sur le Languedoc-Roussillon que le ciel sera couvert. Les températures, elles sont stationnaires demain matin avec des gelées blanches sur le nord et le centre-est. Ailleurs, nous aurons 2 à 11 degrés, c'est encore frais. Et au meilleur de la journée, vous le disiez Julien, ça remonte, le redoux se fait
alors,
sentir.
Combien ?
Jusqu'à 22 degrés dans le Var, 20 à Marseille, 18 à Bordeaux, 16 à Périgueux, 14 à Grenoble, 13 pour Paris et Besançon, on gagne 1 degré à Paris. Et puis ça reste toujours assez frais au nord avec 11 à Amiens, 10 à Lille et Belfort et 8 à Bourg-en-Bresse.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour un nouveau point météo.
Europe Soir, le 18-20, édition spéciale élection américaine. Julien Bugier.
18h15, restez avec nous dans quelques secondes. Nous irons justement à Washington où la situation, vous le verrez, évolue avec notre invité Bertrand Badré, ancien dirigeant de la Banque mondiale. C'est un proche d'Emmanuel Macron. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, spéciale présidentielle américaine. Et Julien Bugier.
Et notre invité ce soir à 18h18 pour évoquer la situation aux États-Unis, l'homme d'affaires Bertrand Badré, ancien directeur financier de la Banque mondiale, proche du président Emmanuel Macron et qui réside à Washington. Bonsoir, merci d'être avec nous.
Bonsoir.
D'abord, est-ce que vous vous attendiez, Bertrand, à un tel scénario ? C'est ce que tout le monde redoutait, un scrutin serré, sans réel vainqueur à l'heure où l'on se parle, et un président qui déjà, Trump, avant la fin des dépouillements, revendique la victoire. Votre réaction ?
Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir vécu les deux précédents traumatismes. Le premier, j'habitais New York quand il y a eu les tensions entre Bush et Gore en Floride. Et puis, quand Trump a battu Hillary Clinton la dernière fois. Et donc, j'ai été un peu vacciné contre l'enthousiasme précoce ou les oui. conclusions trop hâtives. Donc, j'étais plutôt prudent. Et effectivement, je dis pas que j'ai eu raison ou tort d'être prudent, mais c'est vrai que le scénario de ce matin était pondéré en général. On disait oui, il y a une petite chance, 10-20% que ça se passe comme ça, mais les gens étaient assez confiants. Et là, non, pas du tout. On est encore une situation qui est difficile à la fois pour le président lui-même, où la probabilité que Biden gagne reste relativement plus forte. Je suis prudent, mais où la probabilité qu'il gagne le Sénat est faible. Et donc, dans l'hypothèse où Biden est élu et perd le Sénat, on a 2 ans très difficiles en période de crise sanitaire et économique, et avec une probabilité très forte que les choses soient très désagréables, pour ne pas dire nocives pendant ces 2 ans, et se finissent par des élections en 2 ans que le Parti démocrate pourrait perdre.
Bertrand Badré, comment vous vous expliquez que cette fois encore, les instituts de sondage se soient trompés à ce point ? On évoquait une vague bleue avec 8 points d'écart, parfois 10 points d'écart pour Joe Biden, alors que Hillary Clinton, la veille du scrutin, il y a 4 ans, en 2016, était à 4 points d'écart. Mais et on nous avait dit, les sondeurs ont pondéré cette fois les marges d'erreur. Comment se fait-il qu'ils se sont une nouvelle fois trompés ?
Probablement qu'ils n'ont pas assez pondéré. Mais c'est vrai que c'est très troublant, non seulement les sondeurs, je dirais même la communauté des analystes, les grands médias américains, tout le monde s'est un peu auto-intoxiqué avec l'idée que cette fois c'était différent, qu'on avait anticipé, qu'on avait vécu 2000, qu'on avait vécu 2016, et que cette fois ce serait différent. Et c'est vrai que c'est troublant vu d'Europe et un président qui a accumulé, selon nos standards, autant d'erreurs dans la gestion de la crise, puisse arriver... y compris en termes de vote populaire, même s'il en a moins que Joe Biden. Il a plus de votes d'électeurs cette fois-ci qu'il y a 4 ans.
Non,
Il n'y a pas eu d'effondrement, sa base lui est fidèle.
Oui, et ce qui est assez fou, encore une fois, vu d'Europe, vu de France, hein, avec notre vigie à nous, Bertrand Badré, c'est que la gestion du Covid par le président Trump, de l'avis de tous quand même, a été assez chaotique. Et pourtant, les Américains n'ont pas tenu rigueur dans l'issue du scrutin pour l'instant.
Enfin, en tout cas, une partie des Américains n'y ont pas tenu rigueur. Ça, c'est clair. Il avait dit en 2016, vous vous souvenez peut-être, je pourrais tirer sur quelqu'un sur la 5e avenue, il ne m'arriverait rien.
C'est vrai.
C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que là, sa base n'a absolument pas tremblé. Et ce qui est intéressant, c'est que même avec le nombre de votants supplémentaires, d'une certaine manière, ça a joué proportionnellement. Il a aussi gagné des voix dans les nouveaux. Et puis, il y a eu un sujet spécifique qui a été identifié, c'est sur les latinos, concept très américain, notamment dans des États comme le Texas et la Floride, par exemple, où la manière dont il a décrit Biden comme socialiste, voire communiste, a effrayé toute une partie de ces immigrants qui ne viennent pas aux États-Unis avec cette vision du rêve américain. Donc, c'est vrai qu'au total, il a pris tout le monde de court, une fois de plus.
Il crée la surprise. Ça veut pas dire qu'il a gagné. C'est une victoire, tout de même. Même s'il, au bout du bout, il ne gagne pas l'élection, c'est une victoire, quand même. Il crée la surprise, le président Trump. Alors, aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle, 227 grands électeurs pour Biden, 213 pour le président Donald Trump. Il faut, je le rappelle, 270 grands électeurs pour rafler l'élection. Est-ce que c'est la Pennsylvanie et le Michigan qui seront déterminants ? 20 grands électeurs pour la Pennsylvanie, 16 grands électeurs pour le Michigan. C'est vraiment ces deux états pivots, ces deux swings
states qui seront déterminants.
Il y a sept États qui sont pas encore, qui n'ont pas encore achevé le décompte. Alors en plus achever le décompte, il faudra derrière qu'il soit accepté par les candidats et qu'il y ait des armadas d'avocats qui vont contester tout ce qui peut être contesté. Et là, chaque camp joue ses combinaisons en disant si j'ai cet État et pas cet État, etc. Comment ça se passe? Donc encore une fois, à ce petit jeu, Biden a un léger avantage.
Oui.
Mais la réalité, c'est qu'on a encore 30 millions et quelques de votes par correspondance à dépouiller et qu'on n'a pas de précédent. Donc là, pour le coup, il y a une hypothèse qui est faite que ces votes seront plus vraisemblablement pro-démocrates. Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas.
À quel moment on aura les résultats, tous les résultats?
Alors, des résultats tels qu'ils seront proclamés, probablement à la fin de la semaine. La Pennsylvanie, le gouverneur de Pennsylvanie a dit ce matin, on est là où on a dit qu'on serait, c'est-à-dire qu'on dépouillera d'ici vendredi. Et ce sera probablement le plus long, parce que c'est eux qui ont les règles de dépouillement les plus précises et les plus longues. Après, la question, c'est est-ce que ces résultats seront acceptés ou non par les candidats? Est-ce qu'il y aura des contestations et tout un circuit juridique, potentiellement, jusqu'à la Cour suprême, comme en 2000?
Il a raison,
donc,
Donald
normalement,
Trump.
Normalement, d'ici vendredi, oui. On aura une idée.
Il a raison, Donald Trump, quand il remet en cause la légitimité des votes par correspondance. C'est possible qu'il y ait eu des fraudes?
Moi, je ne crois pas. Après, c'est mon opinion personnelle. Je ne vois pas. Oui. C'est un système qui existe depuis des années aux États-Unis. Alors évidemment, en France, on n'est pas du tout familier de cette procédure. Nous, on va voter le jour du vote. On peut éventuellement donner procuration. On vote pas par correspondance. Mais il y a toujours eu des votes par correspondance. Il y en a eu la dernière fois. Il y en a eu la fois d'avant. Ce qui change ici, c'est l'échelle. On est passé de quelques millions à quelques dizaines de millions de votes par correspondance. Donc, c'est des afflux de bulletins qu'on n'a pas expérimenté. Ce qui est très troublant, c'est que Trump fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Il avait dit, alors qu'il est garant de la Constitution comme président, il avait dit cette élection sera la plus grosse fraude de l'histoire américaine parce qu'il y a du vote par correspondance. Et sachant ce qui était dit, c'est que le vote par correspondance serait plutôt démocrate. Et donc c'est exactement ce qu'il a dit cette nuit.
Ça fait
il dit j'ai gagné et ce qui va arriver maintenant, c'est frauduleux.
Ça fait partie d'une stratégie quand il s'est autoproclamé d'ailleurs vainqueur hein, depuis la Maison-Blanche, alors que les dépouillements n'étaient pas tous encore totalement réalisés. Ça fait partie d'une stratégie insinuer le doute dans l'issue de ce scrutin.
Ah ben ça fait 6 mois que cette stratégie se met en place. Tout le monde avait un petit doute sur le thème de est-ce qu'il irait jusqu'au bout. Le fait est qu'il a cette nuit parfaitement, comme souvent d'ailleurs, hein, on n'est pas toujours à l'aise avec son caractère prévisible, mais c'est vrai qu'il était très prévisible. Il a dit depuis 6 mois, le vote par correspondance, ça ne va pas aller, ce sera une fraude. Je vais gagner le soir même, je vais le lire, et après, tout ce qui arrivera derrière sera potentiellement frauduleux. C'est exactement ce qu'on est en train de voir sous nos yeux. Après, je pense que les institutions américaines vont résister. Le Pentagone a laissé entendre hier qu'il était hors de question de mêler les militaires à tout ça. Le FBI, il y a quelques semaines, a arrêté des suprématistes qui voulaient enlever le gouvernement. Donc je pense que les institutions tiendront, mais ça va être une période qui va être extrêmement désagréable.
En cas de blocage, Bertrand Badré, pendant de longues semaines, si les résultats sont contestés et que les avocats s'en mêlent, ça peut avoir des répercussions sur nos relations avec les États-Unis?
En cas de blocage comme en cas de non-blocage, je pense qu'il faudra qu'on regarde ce que signifient ces élections. Oui, en cas de blocage, on aura une tension dans nos relations institutionnelles. Mais peu importe, ça dit aussi que Trump n'était pas complètement un accident, comme on avait tendance parfois à le croire en Europe. Non, c'est une anomalie, on va corriger l'anomalie, on va repartir comme avant.
Oui.
Ça montre bien que les États-Unis ont été profondément transformés depuis 10-15 ans. Et donc ça va être exacerbé dans les 2, 3, 4 mois qui viennent, tant que la transition n'est pas achevée, quelle que soit cette transition. Mais je pense que derrière, il va falloir qu'on se pose sérieusement un certain nombre de questions sur les relations transatlantiques.
Lesquelles ?
La question de la confiance dans un partenaire, la question de la capacité à gérer des grands accords internationaux, la question de notre défense, la question de notre relation avec la Chine, enfin, toute une série de questions très importantes, très stratégiques en sortie de Covid, qu'on a commencé à se poser depuis l'élection de Trump, et Trump réélu ou Trump battu, qu'il faudra de nouveau se poser avec la compréhension que les États-Unis sont transformés.
Dernier point, Bertrand Badré, vous êtes sur place aux États-Unis à Washington, ville que vous connaissez bien, pays que vous connaissez parfaitement bien. On a dit que les villes américaines, certaines villes s'étaient barricadées pendant la période du scrutin. Est-ce que vous sentez monter un climat insurrectionnel ou un climat de tension particulière?
Non, j'étais très surpris. Alors, j'ai pas un échantillon américain. J'étais à Washington hier et aujourd'hui. Effectivement, les vitrines sont recouvertes de panneaux de bois. Il y a des voitures de police, des rues barrées. Enfin, mais rien auquel on ne soit pas habitué en France. Ouais, là aussi. Et j'ai trouvé que l'atmosphère était plutôt assez bon enfant hier, même s'il semble-t-il y a eu un peu de débordement. Mais globalement, et ce matin, je suis repassé devant la Maison Blanche il y a quelques minutes. Il y a beaucoup de journalistes qui se font interviewer devant la Maison Blanche, mais il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas agressif.
Oui.
J'ai pas le sentiment qu'on soit en mode pré-insurrectionnel.
Bien, et eh bien c'est tant mieux. Merci Bertrand Badré d'avoir été ce soir notre invité en direct dans Europe Soir.
Europe Soir, le 18-20, édition spéciale élection américaine.
Julien Bugier.
18h30, le rappel des titres avec Isabelle Millet.
De la patience, demande Joe Biden. Et c'est vrai qu'il va en falloir de la patience alors que le résultat de l'élection américaine est toujours incertain, sauf pour Donald Trump, hein, qui lui assure avoir gagné. Attention, tous les bulletins n'ont pas encore été dépouillés pour l'instant. Avantage Biden. Nouveau conseil de défense consacré à la crise sanitaire ce matin pour discuter de possibles mesures supplémentaires face à l'épidémie qui poursuit sa progression. En conseil des ministres, le gouvernement a présenté un nouveau projet de budget rectifié pour 2020. C'est le quatrième depuis le début de la crise sanitaire, afin de débloquer 20 milliards d'euros supplémentaires pour soutenir l'économie. 8 morts, c'était le 5 novembre 2018, rue d'Aubagne, à Marseille, dans l'effondrement de 2 immeubles. 2 ans après ce drame, le bailleur social Marseille Habitat a été mis en examen aujourd'hui, notamment pour homicides involontaires par violation délibérée d'une obligation de sécurité. La Ligue des champions de foot, le PSG, privé de ses superstars, Neymar et Mbappé notamment, retrouve Leipzig ce soir, tandis que Rennes se déplace à Chelsea. Grande soirée foot sur Europe 1, dès 20h.
Évidemment, merci Isabelle, à tout à l'heure, 19h.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Alors Anissa, lunettes de soleil demain et écharpe pour tout le monde.
Voilà, c'est l'équipement parfait pour cette journée d'automne puisque c'est une nouvelle journée très ensoleillée. Demain, encore plus belle qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que demain, le soleil va rayonner sur toute la France sans aucun nuage ou quasiment. Puisque sur le Languedoc-Roussillon, nous aurons des entrées maritimes qui seront un petit peu persistantes tout au long de la journée. Et là, le ciel sera gris, mais partout ailleurs, c'est vraiment du grand et beau soleil. Et les températures, elles sont toujours froides, hein, le matin avec des gelées blanches sur le nord et le centre-est. Et puis dans l'après-midi, nous allons avoir un léger redout dans le sud jusqu'à 22 degrés dans le Var, 20 degrés à Marseille, 18 du côté de Bordeaux. Seulement 13 à Paris, mais ça remonte.
Seulement 13 à Paris, mais c'est pas mal quand même,
ouais,
pour un mois de novembre. Merci
saison.
Anissa, à tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, édition spéciale élection américaine.
Julien Bugier.
18h32, la suite de notre édition spéciale sur les élections américaines avec le débat des grandes voix. On va revenir évidemment sur la situation aux États-Unis dans quelques instants. D'abord, je voudrais qu'on s'intéresse à la gestion de la crise sanitaire, car la colère gronde et ça flotte un peu au sein de l'exécutif. On en parle ce soir avec Elsa Conessa, rédactrice en chef finance et marché aux Échos, ancienne correspondante à New York. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous. Jérôme Forquet. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du département opinion de l'IFOP. Et Louis Dragnel. Bonsoir Louis, chef adjoint du service politique d'Europe 1. Alors, un nouveau conseil de défense s'est donc tenu ce matin autour du président. Dans un contexte compliqué pour le gouvernement, imbroglio sur les petits commerces, dissonance autour du télétravail, protocole sanitaire insuffisant, dit-on, à l'école, et puis cafouillage aussi concernant ce couvre-feu en Île-de-France, ce qui a fait perdre à l'Assemblée nationale le flegme légendaire d'Olivier Véran.
Mesdames et messieurs les députés, je suis rentré dans deux chambres dans ce service de réanimation de Corbeil-Essonne. Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans. De 28 ans, en coma, intubé, ventilé. Dans la deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux.
Voilà, grosse colère d'Olivier Véran à l'Assemblée nationale, ministre de la Santé. Alors c'est vrai que cette fois, quelque chose ne fonctionne pas, Jérôme Forquet. On sent poindre une crise de confiance des Français qui ont de plus en plus de mal à comprendre la stratégie du gouvernement et à accepter les efforts demandés. Est-ce que c'est ce que vous observez ?
Alors oui et non, effectivement, la communication gouvernementale est assez mal menée. Pour autant, les Français ont en tête l'espèce de quadrature du cercle à laquelle le gouvernement est confronté, c'est-à-dire essayer de préserver le mieux possible l'économie tout en assurant une sécurité sanitaire pour la population. Puisque les Français sont quand même très inquiets face au risque de contamination pour eux-mêmes. Mmh. Et donc ils comprennent et ils acceptent que l'on sacrifie l'économie à cela. Et donc, bien évidemment, ces mesures sont compliquées à mettre en œuvre. Elles nécessitent sans doute des arbitrages, des réglages avec la polémique sur l'ouverture de tel ou tel type de commerce. Mais dans une enquête que nous avons publiée lundi, 44% des Français faisaient confiance au gouvernement. Alors c'est certes une majorité qui ne fait pas confiance, mais on rappellera qu'avec la même question au mois de mai dernier, à quelques jours du déconfinement, le niveau de confiance dans le gouvernement n'était que de 33%.
Donc vous dites qu'il n'y a pas une acceptabilité plus compliquée dès lors que la mesure, c'est-à-dire la mesure de confinement devient durable, parce que le conseil scientifique nous dit seconde vague, troisième vague, quatrième vague.
Encore une fois, les Français ont en tête la gravité de la situation. Ils observent aussi ce qui se passe à l'étranger. Ils ont vu que d'autres pays européens avaient pris des mesures similaires à la France. Mmh. Et donc, si vous voulez, l'état majoritaire de l'opinion aujourd'hui, c'est plutôt une forme d'acceptation résignée. Et donc, il y a une oreille en partie attentive aux critiques qui peuvent poindre. Mais ce n'est pas une véritable colère qui est en train de monter. Il y a la conscience, de la gravité de la situation et de la difficulté que le gouvernement doivent régler à la fois le front sanitaire et le front économique.
Colère toutefois chez les petits commerçants quand même. On a vu des manifestations, notamment je crois à Bayonne aujourd'hui, 500 petits commerçants qui ont manifesté leur mécontentement et qui demandent à ouvrir. Elsa.
Oui, effectivement. À partir du moment où on a fait un confinement qui est moins strict que celui du printemps, forcément on s'expose à des protestations, à des injustices, surtout aussi bien au niveau des commerçants qu'au niveau des ménages. Donc je pense que cette situation, elle n'est pas tellement surprenante. Après, moi, je ne sais pas s'il faut faire un couvre-feu ou pas. J'avoue que je ne suis pas compétente pour avoir un avis là-dessus. Mais quand on regarde du point de vue budgétaire, en fait, le soutien est là quand même. Hein. On a 86 milliards d'euros dépensés.
Moi, pardon Elsa, mais sur le couvre-feu, je n'ai pas bien compris l'idée d'un couvre-feu alors qu'on est déjà en période de confinement. Normalement, à 21h, tout est fermé, a priori, sur le papier.
Oui, moi, j'avoue que j'ai découvert qu'il n'y avait plus de couvre-feu, j'avoue, à cette occasion-là. Je pensais qu'on était encore sous couvre-feu. Mais donc effectivement, il y a eu un couac, ça c'est regrettable dans un contexte où on a des mesures qui sont difficiles à vivre pour les Français.
Louis Dragnel, faut-il instaurer un reconfinement plus strict, comme le demandent certains? C'est ce que dit Christian Estrosi, par exemple, le maire de Nice. Parce que c'est vrai que, pardon d'insister, mais je repose la question de l'acceptabilité, aucune étude scientifique, par exemple, ne montre à ce jour le niveau de contamination dans les magasins. C'est ce qui pose la question des petits commerces. Pourquoi est-ce qu'on est plus en danger sur le papier quand on va dans une librairie acheter trois bouquins plutôt que quand on pousse un chariot dans un supermarché? C'est tout ça qui est compliqué à comprendre aujourd'hui pour les Français.
Oui, et puis ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'initialement, le gouvernement savait très bien qu'en fixant l'objectif du 1er décembre comme étant la fin de la première date du confinement, en réalité, le gouvernement a un autre calendrier en tête. Il s'est simplement dit, voilà, il faut trouver une date qui est psychologiquement acceptable. Et ensuite, donc tout le monde sait que ça va durer plus longtemps. Ensuite, s'agissant de l'acceptation sociale, je trouve que c'est un sujet très intéressant parce qu'on voit quand même une distorsion entre ce que les gens déclarent souvent pour les autres en termes de mesures de privation de liberté et tout ça. Et ça, ça ne les gêne pas. Mais en revanche, quand on voit que ça les concerne eux-mêmes, on voit qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité qui disent « Non, moi, je ne veux pas être concerné par le confinement, moi non plus. » Et tout le monde, en fait, en réalité, a de bonnes raisons. Et d'ailleurs, les services de police ont beaucoup de mal, en fait, lorsqu'ils contrôlent les attestations, à faire la part des choses entre le vrai et le faux. Et ensuite, politiquement, il y a juste une toute petite chose. C'est que, s'agissant du couac dont vous parliez tout à l'heure sur le rétablissement ou pas du couvre-feu, en réalité, il va être rétabli dans les prochains jours. J'ai eu la confirmation.
Ça veut dire quoi, rétablir un couvre-feu quand on est en période de confinement?
Ça veut dire qu'en fait, pendant le confinement, vous pouvez quand même sortir pour promener votre chien à 22h si vous voulez.
C'était le cas en mars dernier pendant le confinement, on avait le droit.
Alors, vous pouvez aujourd'hui sortir votre chien, vous pouvez aller faire votre jogging à 22h30 et à partir du moment où il y a un couvre-feu qui est mis en place, à ce moment-là, ce n'est plus possible après une certaine heure. Alors, est-ce que c'est 21h? Est-ce que c'est 22h?
Mais quelle est la logique d'une telle mesure, Jérôme Fourquet? Ça veut dire qu'à 20h30, on a le droit d'aller courir dehors et on ne risque pas d'être contaminé, mais par contre, à 21h05, il y a un risque.
C'est pas qu'il y a un risque plus important, c'est que toutes ces mesures visent à éviter le plus possible que la population se déplace et circule pour accroître les occasions de contamination. Donc c'est un peu comme faire baisser une température, et donc il faut ralentir les mouvements. Donc on essaie de confiner certains secteurs, de fixer maintenant un couvre-feu, tout en étant encore une fois sur la corde raide, puisqu'il y a aussi l'impératif économique. Mmh. Dans l'enquête que je citais tout à l'heure, 56% des Français ressentent déjà pour eux les effets économiques et sociaux de cette crise. Ça monte à 75% dans les catégories les plus modestes. Donc le gouvernement, même s'il aide massivement un certain nombre de secteurs, sait que un certain nombre de secteurs d'activité pourraient ne pas s'en remettre. Et en même temps, on a entendu Olivier Véran, on entend les soignants qui disent « la vague est devant nous ». Et donc il faut se battre en même temps sur les deux fronts. Donc ça, on ne peut pas être populaire dans un moment comme ça. Mais encore une fois, quand vous regardez les chiffres, l'impopularité n'est pas aussi élevée que ce à quoi on aurait pu s'attendre, parce qu'il y a une forme de maturité de l'opinion qui constate aussi que les autres pays européens sont confrontés aux mêmes difficultés.
Bien, vous restez avec nous Jérôme Fourquet, on continue d'en parler dans quelques secondes, on parlera notamment du télétravail et puis on basculera sur les élections américaines, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, spécial présidentielle américaine, et Julien Bugier.
18h41, on est toujours dans la suite de notre édition spéciale élections américaines avec le débat des grandes voix. On va terminer la séquence sur la crise sanitaire avant de partir aux États-Unis avec les grandes voix. Je voudrais qu'on dise un mot de la question du télétravail. Là aussi, parfois, on n'y comprend plus rien. Avec des discours parfois contradictoires, Elsa connaît ça, vous êtes rédactrice en chef finance et marché aux Échos. Elisabeth Borne, par exemple, ministre du Travail, nous dit « ça doit devenir obligatoire ». Et puis dans le même temps, Bruno Le Maire nous dit « c'est recommandé ». Alors qui croire ?
C'est quand même typiquement une polémique franco-française. Enfin, au printemps, on a imposé le télétravail. On entendait des gens hurler sur le thème « il faut laisser de la souplesse aux entreprises, il faut que ce soit décidé localement ». Quand c'est décidé localement, on entend qu'en fait, ça part dans tous les sens et qu'il faut que justement, il y ait une seule voix et que ce soit une politique au niveau national. Je pense qu'il y a une volonté de laisser un petit peu de souplesse quand même aux entreprises, parce que les entreprises, ça peut être des PME, ça peut être de l'industrie, ça peut être des services, ça peut être de l'administration tout simplement. Donc, moi, je comprends cette logique qui consiste à laisser un petit peu de marge de manœuvre au patron.
C'est certain, mais en même temps, quand on dit « il y a trop de gens dehors, il faut un confinement plus strict », c'est aussi parce que les gens vont quand même bosser pour certains, car les entreprises ont le choix. Donc souvent, c'est 2 jours de présentiel et puis le reste en télétravail. Donc ça fait du mouvement. Ça fait du mouvement de citoyens dans les rues.
Oui, c'est certain, mais c'est un choix délibéré qui a été fait du gouvernement cette fois de laisser un peu de circulation. Enfin, c'est le cas pour les écoles, on en parlait à l'instant.
Jérôme Fourquet.
Oui, on a vu là sur les premiers jours de confinement que, par exemple, en Île-de-France, la fréquentation des transports en commun avait baissé de 60%. Donc c'est bien moindre en termes d'effet que lors du premier confinement. Mais encore une fois, c'est l'idée d'essayer d'être sur une ligne de crête en maintenant une partie d'activité économique tout en freinant et ralentissant la circulation de la population et donc la circulation du virus. Le gouvernement avait été très frappé, par exemple, lors du premier confinement, que des secteurs comme le BTP, les chantiers, où on est en plein air, etc., pour beaucoup d'entre eux, étaient arrêtés du jour au lendemain, alors qu'en Allemagne...
90% de l'activité avait été stoppée, mais parce qu'il n'y avait pas de protocole qui avait été trouvé avec la Fédération française du bâtiment, je crois.
Il n'y avait pas de masque, etc. Là, il n'y avait pas de tolérance. Hein, c'était tout le monde s'arrête, il n'y avait déjà plus de transport en commun pour se rendre sur son lieu de travail, etc. etc. Et donc là, le gouvernement qui voit l'ardoise s'alourdir jour après jour de la crise du Covid, eh bien, essaye de maintenir un minimum d'activité, encore une fois, quitte à ce qu'il s'expose au risque de polémique sur l'absence de lisibilité ou le manque de clarté des règles qui sont fixées.
Dernier mot sur cette crise sanitaire, on le répète, Louis Dragnel, c'est une information que vous nous révélez tout à l'heure. Il y aura donc un couvre-feu qui sera instauré dans les prochains jours.
Ça va bien être instauré.
En plus du confinement.
La seule chose, c'est qu'effectivement, hier, le gouvernement était pris dans cette polémique et voulait absolument en sortir le plus vite possible. D'ailleurs, demain, Emmanuel Macron va plutôt parler d'immigration pour essayer de changer de sujet. Et donc, l'objectif, là, c'est de négocier en coulisses, notamment avec la mairie de Paris, puisqu'on parlait d'abord et avant tout de Paris, pour ensuite, effectivement, l'annoncer. Et sans doute, cette mesure s'imposera dans les prochains jours. Alors, est-ce que c'est à la fin de la semaine, début de semaine prochaine ? Je ne sais pas, mais une certitude, c'est que quand on appelle des décideurs politiques, les chiffres ne sont pas bons. Et du coup, les mesures, en tout cas, qui ont été annoncées, vont plutôt se durcir que s'alléger dans les prochains jours.
Bien, 18h45, on se retrouve dans quelques instants. On parlera des élections américaines avec les grandes voix. A tout de suite.
Europe won at the American election. Europe Soir, le 18-20.
Europe won live for the American elections.
Édition spéciale élection américaine. Et Julien Bugier.
18h47, la suite des grandes voix à l'élection américaine. Oui, on y vient avec un sentiment de déjà-vu, c'est vrai. Donald Trump qui, une nouvelle fois, crée la surprise. On annonçait une vague bleue qui n'a pas eu lieu. Et il se peut qu'on ne connaisse pas les résultats définitifs avant plusieurs jours, plusieurs semaines même peut-être. C'est le scénario que beaucoup redoutaient et qui fait craindre une crise institutionnelle de la première puissance économique mondiale. Alors tout va se jouer dans les derniers états-clés, mais déjà chacun revendique d'une certaine manière la victoire.
On se préparait à gagner l'élection et pour être honnête, on l'a déjà gagné.
Gardez espoir les gars, on va l'emporter.
Voilà, et déjà ce soir, Trump annonce, on l'apprend à l'instant, un recomptage des votes dans le Wisconsin. C'est ce qu'annonce son directeur de campagne. Elsa connaît ça du journal Les Échos. Qu'est-ce que ça nous raconte de l'Amérique, ce nouveau vote surprise ?
Je trouve que ça raconte très bien l'Amérique, en fait. En Europe, on est très surpris parce que je pense qu'on a acheté vraiment ce scénario de la vague bleue auquel on avait envie de croire, hein, il faut être honnête. En réalité, l'Amérique, c'est deux Amériques
aujourd'hui. On l'a acheté
aujourd'hui.
Parce qu'on a suivi les sondeurs aussi, ouais, qui
oui,
nous disaient qu'il y a 8 points d'écart.
Moi, j'étais aux États-Unis en 2016, et la leçon, c'est vraiment que c'est un électorat, l'électorat de Trump, qui est très difficile à capter dans les sondages. Enfin, ce sont des gens qui n'assument pas souvent de voter pour Trump, peut-être un peu plus cette année, mais enfin en 2016, je peux vous garantir, moi j'ai sillonné le pays, je ne trouvais pas d'électeurs de Trump.
Ah
avant,
oui.
les élections, les gens ils votaient pour d'autres républicains, oui. Mais pas Trump, ça jamais. C'est-à-dire, c'était vraiment un candidat
donc
honteux.
Donc il y a un vote caché.
Ben, je pense qu'il y a une partie de ça qui a joué, également cette année. Mais ce que raconte cette élection, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai observé sur le terrain, c'est-à-dire une Amérique des côtes avec des élites démocrates qui ont quand même un profond mépris pour l'Amérique du centre qu'ils appellent flyover country, donc oui. La partie du pays qu'on survole sans jamais s'y arrêter, peuplée de rednecks, donc de ploucs, hein, en gros. Et à l'inverse, les électeurs du cœur de l'Amérique, mais qui est la vraie Amérique, considèrent que les élites les ont complètement abandonnés pour défendre les immigrés. Y a vraiment une espèce d'incompréhension et qui est devenue une forme de détestation réciproque.
C'est un pays plus polarisé que jamais, Jérôme Fourquet. C'est vrai que c'est un mot qui revient beaucoup depuis 24 heures.
Oui, tout à fait. Alors, quand vous commencez à regarder les résultats dans le détail, dans les États qui ont fini de décompter leurs voix, ce qui est très frappant, c'est de voir à quel point les écarts sont parfois importants. Elsa Conessa parlait de l'Amérique des côtes. Si on prend, par exemple, le cœur du pouvoir américain, Washington DC, c'est plus de 90% des voix pour Biden.
90%.
Et dans certains États ou comtés du centre de l'Amérique, ou en Louisiane, on a les mêmes scores à 85-90% pour Trump.
Et là où ça va jouer à la fin, c'est sur la fameuse Rust Belt, c'est la ceinture ouvrière de l'Amérique blanche.
Ex-industrielle et donc encore ouvrière, que Trump avait emporté à quelques points. Il y avait 4 ou 5 États où ça s'était joué à très peu. Cette année, c'est ces États qui sont en bataille. Alors, même si Biden l'emporte, la victoire ne sera pas aussi éclatante que ce qui avait été annoncé. Et la leçon de tout cela, c'est que la victoire de 2016 n'était pas un accident. Il y a eu des causes très profondes à la victoire de Trump et que les mêmes causes produisent, de manière plus ou moins atténuée, les mêmes effets aujourd'hui. On a eu le même phénomène en Grande-Bretagne avec le Brexit. Hein, là aussi, il y avait un effet de surprise de la part des élites qui étaient tous pour le maintien dans l'Union européenne. Et quand, un ou deux ans plus tard, il y a eu des élections générales, donc des élections législatives en Grande-Bretagne. Ce sont les conservateurs, avec Boris Johnson, qui assumaient le choix du Brexit, qui l'ont emporté haut la main.
Oui.
Notamment dans tout le nord de l'Angleterre, qui est le nord désindustrialisé, donc la Rust Belt britannique, avec des circonscriptions qui étaient travaillistes depuis des décennies, qui ont basculé dans le camp des conservateurs.
Sauf que, Jérôme Fourquet, ce qui est différent par rapport à 2016, c'est que Donald Trump a désormais un bilan, et notamment sur la crise du Covid. Je posais la question tout à l'heure à notre invité, Bertrand Badré. Ce qui est incroyable, c'est que cette crise du Covid chaotique, avec un manque de compassion certain pour les victimes, les morts, 230 000 morts tout de même, avec cette absence de masque, avec ce mépris quand même pour les scientifiques qui prenaient les mesures sanitaires, ça n'a pas eu de prix, ça n'a pas eu d'impact sur l'électorat de Donald Trump, Elsa.
C'est parce que vous avez une vision européenne de la santé, en fait. En Europe, les politiques de santé publique, elles sont puissantes, elles sont centralisées. Aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas. En fait, il n'y a même pas de vaccin obligatoire aux États-Unis. C'est des vaccins État par État, ce n'est pas les mêmes partout, ce n'est pas les mêmes parfois d'une ville à l'autre. Donc, dans l'esprit d'un Américain, la responsabilité de l'échec du traitement du Covid, elle ne revient pas à Washington.
C'est
les États. Ce sont les États qui décident de faire des lockdowns ou pas. Effectivement, il aurait pu avoir un discours plus clair sur le masque, certainement. Mais les Américains ne raisonnent pas comme ça, en fait. C'est un peu comme si nous, on disait c'est la faute de Bruxelles. Bruxelles a mal géré le Covid.
On dit souvent ça. Bah, on l'entend, en tout cas.
Oui, enfin, on dirait plutôt du point de vue peut-être budgétaire ou je ne sais pas, du point de vue politique. Mais les Américains ne pensent pas comme ça.
Donc
c'est pour ça que c'est quelque chose qui, je pense, ne l'a pas desservi. Et le fait même, d'ailleurs, qu'il ait eu la maladie et qu'il en soit sorti plutôt renforcé, ça l'a plutôt aidé, je pense.
Louis Dragnel, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qui se passe en Europe, la montée des populistes notamment? On pense à l'Angleterre avec Johnson, on pense à la Hongrie avec Orban, on pense à certains pays scandinaves. Et est-ce que ça présage d'une certaine manière de ce qui peut se passer aussi en 2022 en France?
Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a vraiment deux choses qui sont assez intéressantes dans ce qui est en train de se passer aux États-Unis par rapport à, effectivement, à l'éclairage français. C'est que la première chose, c'est que si Trump peut gagner sans qu'aucun observateur, même américain, ne le voit, aucun observateur, évidemment, européen ne le voit non plus, c'est qu'en France aussi, tout est possible. Ça, c'est le premier enseignement, je trouve. Et le deuxième, c'est qu'on voit bien que la société américaine est très fracturée, vous l'avez bien raconté, elle est très clivée. Mais en France, c'est exactement ce qu'on est aussi en train de vivre.
on voit bien que le débat n'est plus possible avec des nuances.
Oui.
On voit bien que tout est très... On est pour, on est contre. Et donc, moi, je trouve que le terreau... Alors, on ne peut pas calquer deux pays et deux contextes qui sont différents, mais le terreau est à peu près le même. Et c'est plutôt une tendance, d'ailleurs, qu'on voit dans plusieurs pays du monde, vous citiez la Hongrie, vous citiez la Grande-Bretagne. Et en France, quand même, on voit bien que le durcissement de l'opinion est une réalité.
Alors, les deux sociétés ne sont pas comparables, évidemment, c'est très différent. Mais quand même, est-ce qu'il y a un point de convergence, Jérôme Fourquet, dans ce qu'on peut appeler la gilet jaunisation de la société, où l'antisystème primerait sur les projets de société et donc sur les programmes des candidats? C'est possible, ça, en France?
Alors, oui et non, mais je pense qu'encore une fois, on est sur des causes très très profondes. Par exemple, la question des délocalisations et du libre-échange, hein, qui a été prônée par la gauche et la droite américaine pendant des décennies.
Oui, c'est fini là, c'est America First, y compris d'ailleurs pour Biden.
Mais sauf que vous avez un effet de traîne qui est énorme, c'est-à-dire qu'il y a des régions entières qui ont été mises par terre.
Oui.
Et donc ça, on a le même problème chez nous. On a un autre effet dont on parle assez peu souvent, et donc moi, c'est ma casquette de sondeur, c'est la segmentation de plus en plus forte de la société selon le niveau de diplôme, avec une politique de démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, mais qui a stratifié, si vous voulez, la population entre des diplômés du supérieur et les autres. Aujourd'hui, dans nos sondages en France, comme au moment du Brexit en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, la variable statistique qui explique le mieux le vote, c'est le niveau de diplôme. Alors, les États-Unis, il y a aussi la question de l'ethnie ou de la race, parce qu'on est sur un pays qui est multiculturel, mais la question du diplôme joue très fortement. Et ce mépris de classe de la part des élites diplômées qui ont fait Stanford, Harvard ou autre, vis-à-vis des ploucs et des rednecks, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi très fortement chez nous. Donc, on a des ingrédients qui sont comparables.
Oui.
Là où il y a des différences, c'est qu'on a un modèle de protection sociale qui n'a rien à voir avec ce qui se passe aux États-Unis. Oui. On a des classes moyennes qui, entre guillemets, se tiennent encore à peu près en France avec tout un système qui les accompagne et qui les aide.
Un dernier mot, Elsa.
Je crois que cette question des délocalisations, c'est absolument majeur, je pense, dans ce qui a porté Trump au pouvoir et ce qui, en tout cas, justifie une partie du score qu'il a fait aujourd'hui. C'est vraiment le premier à avoir mis au cœur du débat ce sujet, sans a priori idéologique. Les délocalisations, c'était un truc qui était présenté par la gauche comme par la droite comme une espèce de fatalité, chose qui était lié à la mondialisation, auquel on ne pouvait rien faire finalement. Un Mexicain payait $5 la journée, on ne peut pas lutter quand on est un ouvrier syndiqué de l'Indiana qui gagne $25 de l'heure. Sauf que l'ouvrier syndiqué de l'Indiana, il pouvait payer des études à ses enfants, il était ouvrier de père en fils généralement, ce qui était une vraie source de fierté. Il pouvait acheter une maison, il pouvait être propriétaire. Et en fait, du jour au lendemain, il est balancé dans une société de service où il faut qu'il travaille pour Uber, où il faut qu'il aille dans un entrepôt Amazon, qu'il fasse 2 ou 3 jobs pour boucler ses fins de mois. Souvent, sa femme qui ne travaillait pas, elle doit
et
se mettre à travailler.
C'est ça qui explique le vote Trump.
Et c'est en partie ça. Ouais. Et c'est cette conscience très nette que les démocrates les ont abandonnés parce que les traités de libre-échange, c'est les Clinton qui ont voté, enfin c'est Bill Clinton en l'occurrence qui a fait voter le traité de libre-échange avec le Mexique. Et ça, ils en sont très conscients.
Bien. Et merci à vous, Elsa Conessa. Merci à Jérôme Fourquet. Je rappelle votre livre, L'Archipel français, qui sort en poche, je crois.
Tout à fait.
Après son succès en librairie. Merci à vous.
Merci
Louis. On se retrouve dans quelques instants avec le journal et le Club des idées.
I'm Joe Biden.
I'm Donald Trump, and I approve this message.
USA 2020.